Radio Okapi.
Okapi.
Le journal, présenté par Belinda Bossouma.
La criminalité prend de l'ampleur dans la ville de Bukavu. Hier, 13 corps sans vie gisaient dans différentes avenues de la ville. Les circonstances de ces morts ne sont pas connues par les habitants de cette ville sans police depuis sa prise par le M23 soutenu par le Rwanda. Choléra à Moba dans le Tanganyika. 32 cas déjà enregistrés à la 10e semaine dans l'aire de santé de Mulunguzi. Le médecin chef de zone de santé alerte sur cette situation qui nécessite, dit-il, une mobilisation urgente et collective pour lutter contre cette maladie. Et puis, quelle chance accordée à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU et au dialogue direct M23 gouvernement congolais pour le retour de la paix dans la région des Grands Lacs. Nous en parlons avec le professeur Jeff Mudimbi, docteur en sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi. À tous et à toutes, bonjour. Une dizaine de corps jonchaient les rues des différentes avenues de la ville de Bukavu hier jeudi matin. Les circonstances de leur mort ne sont pas connues par la population de cette ville sans police ni prison depuis sa prise par le M23 soutenu par le Rwanda. Renéline Tibonera nous en dit plus.
Les habitants de toutes les trois communes de Bukavu comptent les morts chaque jour, mais la nuit dernière a battu le record. 13 corps, majoritairement criblés de balles, gisaient dans différents endroits. Les cadres de base des avenues éplorées ont rapporté la situation ce matin aux responsables du M23 qui contrôle actuellement la ville de Bukavu. Et en dehors de Bukavu, les milieux ruraux sont aussi infectés par l'insécurité. Des hommes armés, non autrement identifiés, ont semé la terreur toute la nuit à Mumosho. Cette famille ont été visitées par une bande de gangsters armés. Ils ont tabassé et blessé un couple avant de dévaliser leur maison de commerce. Les assaillants se sont introduits par effraction dans plusieurs autres maisons qu'ils ont pillées des fonds en comble.
Par ailleurs, le M23 soutenu par le Rwanda et l'Alliance Fleuve Congo menace de placer en détention et attaquer des journalistes, des détracteurs et des activistes de la société civile, ce depuis la prise de Goma et de Bukavu. C'est ce qu'indique un rapport de l'ONG Human Rights Watch publié le mercredi. L'ONG affirme avoir reçu des informations crédibles indiquant que plus de 200 activistes ont fait des demandes de protection depuis que le M23 a lancé son offensive sur Goma en janvier, puis a pris Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu, en février. Le résumé de ce rapport avec Blaise Makassinandes.
Dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, note le rapport, les combattants du M23 ont fait des descentes dans les maisons et proféré des menaces de mort et de représailles, sapant le travail des médias indépendants et d'organisations de la société civile. Les combattants du M23 ont également placé en détention des leaders de la société civile et commis des exécutions sommaires, notamment le meurtre du chanteur Delgati Dingo, qui était aussi activiste à son domicile, et 5 hommes soumis à du travail forcé. Les autorités du M23 et des l'AFC ainsi que le gouvernement rwandais sont tenus de respecter le droit international humanitaire dans les zones qu'ils occupent. Il devrait permettre aux activistes de la société civile et aux journalistes de travailler et de se déplacer librement et faire rendre des comptes à leurs membres responsables d'abus, recommande le rapport. Après la prise de Goma par le M23 et les forces rwandaises, l'AFC a remplacé la police et d'autres institutions gouvernementales nationales dans la ville. Depuis lors, des combattants du M23 ont battu et exécuté sommairement des personnes suspectées de soutenir les forces armées congolaises et leurs alliés et ont pillé des maisons, conclut les rapports.
Merci de nous recevoir dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Ici, le gouvernement de province a présidé hier un atelier sur la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'atelier a regroupé les autorités provinciales et locales, les élus provinciaux, les responsables des différents mouvements citoyens, des groupes de pression et d'autres structures de la jeunesse venues du territoire de Lubero, de la ville de Butembo, des Beniville et territoires. Objectif de cet atelier, étudier ensemble rassemble les voix et moyens pouvant aider à mettre efficacement en œuvre la résolution 2773 pour un retour de la paix dans la province. Le général-major Évariste Kakule-Somo a saisi l'occasion pour demander que tous les participants et leurs structures représentatives accompagnent le gouvernement et son partenaire la MONUSCO dans la mise en œuvre de cette résolution pour le retour d'une paix durable. Le gouverneur du Nord Kivu est au micro de Guylaine Kassassia.
Il est de notre devoir, en tant qu'un gouvernant, de nous tourner vers les couches sociales que vous êtes et de les associer à la gestion de la chose publique. Nous sommes donc conscients du grand rôle que vous jouez, chers compatriotes. C'est conscient de tout cela que nous avons pensé organiser aujourd'hui une première séance d'échange avec vous pour recueillir toutes vos contributions sur les enjeux de l'heure, notamment dans cette phase de délocalisation des institutions publiques et privées dans la ville de Beni. Il s'agit d'un cadre qui tourne vers la réflexion autour des mécanismes devant aider à stabiliser la paix dans notre province, notamment la contribution de nos partenaires à ces objectifs dont toutes les agences du système des Nations Unies, et particulièrement la MONUSCO. La population du Nord Kivu attend plus d'actions concrètes de la MONUSCO sur terrain. Et pour que la MONUSCO puisse poser ses actions, il est nécessaire qu'en amont, dans le cadre participatif que j'ai évoqué tantôt, vous puissiez vous approprier ce mécanisme-là et accompagner la MONUSCO. Il est temps de rompre avec les querelles d'hier, parce que les vues n'était pas harmonisé. Maintenant que nous en avons l'occasion, c'est le temps de nous mettre ensemble et d'avancer main dans la main.
Pour rappel, la résolution 2773 a été adoptée à l'unanimité le 21 février 2025 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Entre autres, elle condamne directement le Rwanda pour son soutien à l'offensive du M23 dans l'est de la RDC et réclame le retrait immédiat de ses troupes. La résolution appelle également le M23 à cesser les hostilités en RDC et le Rwanda à mettre fin à son soutien au M23. Restons à Beni. La MONUSCO a remis hier 6 jeeps à la police nationale congolaise des territoires de Beni et Lubero. Elles sont destinées au commissariat de police des villes de Butembo, Lubero et Oicha. La cérémonie de remise s'est déroulée au gouvernorat où le chef du sous-bureau de la MONUSCO Beni, Abdourahman Ganda, a remis les clés au gouverneur du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule. Témoin de l'événement, Guylaine Kassassia.
L'objectif de ces dons est de contribuer à la sécurisation des entités bénéficiaires, à savoir Butembo, Oicha et Lubero, comme l'explique Abdourahman Ganda, chef du sous-bureau de la MONUSCO Beni.
C'est vraiment pour contribuer à la sécurisation urbaine des 3 entités citées que la MONUSCO a décidé de faire ce don. On ne va pas s'arrêter à ce niveau, on en a fait déjà, mais on va continuer.
Le général-major Évariste Kakule-Somo, gouverneur de province qui a réceptionné ces dons, a salué le soutien multidimensionnel de la MONUSCO en faveur du gouvernement.
La MONUSCO n'est pas à son premier fait d'appui en faveur de notre police en termes de dons, de renforcement de capacités et même de coopération sur terrain. Je suis sûr qu'avec ce vent nouveau qui est en train de s'élever, l'implantation même du QG de la force de la MONUSCO à Beni, le tout dans le sens de la sécurisation et de la protection de la population, je suis sûr que cette collaboration va continuer. C'est pourquoi en recevant ces véhicules, je les remets à la disposition du commissaire provincial avec ferme instruction d'en faire bon usage. La population de Beni, Butembo, Oicha, Lubero a besoin de sécurité renforcée. Et la mobilité fait partie de ces facteurs.
À noter que le 31 décembre dernier, la MONUSCO avait déjà remis 5 autres jeeps à la police nationale congolaise au profit des commissariats de la ville de Beni. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, une équipe provinciale des Nations Unies a vu le jour au début de cette semaine dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. C'est Bruno Lemarquis, représentant résident du secrétaire général de l'ONU en RDC, qui a procédé à son installation. Pour ce haut cadre onusien, cette coordination permettra de mener des actions concertées entre les agences et les organisations du système des Nations Unies dans les provinces de la Mongala, de l'Équateur, du Nord et du Sud d'Ubangi, ainsi que de la Chuapa. Lors de cette même visite intervenue lundi, Bruno Lemarquis a pu se rendre compte des efforts fournis par les agences dans cette région affectée par la variole simienne, des efforts salués par ce dernier. On écoute Bruno Lemarquis dans cet extrait choisi par Ronéline Tibonera.
Il y aura une personne qui va être désignée pour être le coordonnateur de toute cette équipe des Nations Unies dans le Grand Équateur et aussi pour avoir aussi des rencontres régulières avec les autorités et pour être bien aligné aux priorités des autorités. Ensuite, nous avons une réunion avec tout le personnel des Nations Unies dans ces 5 provinces, en présentiel et en ligne. Et puis là, nous sommes en train maintenant de visiter une initiative qui est appuyée par l'UNICEF et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et un centre de traitement pour les patients suspectés ou à de MPOX, donc c'est un centre de traitement qui est en face de l'hôpital général de Mbandaka. Donc les médecins de la DPS viennent de nous expliquer où en est l'état de l'épidémie de MPOX ici, la coopération avec les Nations Unies, etc. Donc nous sommes contents d'entendre que au niveau de la province, l'épidémie commence à s'atténuer après tous les efforts qui ont été faits.
Santé. Dans la province du Tanganyika, 32 cas de choléra enregistrés à la 10e semaine dans l'aire de santé de Mulunguzi, zone de santé de Moba. C'est confié à Radio Kapi. Le médecin chef de zone de santé à l'intérim indique que plusieurs cas de choléra proviennent des différents villages. Docteur Riki Mbayo alerte sur cette situation qui nécessite, d'après lui, une mobilisation urgente et collective pour lutter contre cette maladie. Docteur Riki Mbayo, dans ses propos recueillis par Paulin Munanga.
Jusqu'à ce jour, on continue encore à notifier des cas. Du moins, on notifie et on riposte parce que les intrants sont là. Ce n'est pas seulement Mulunguzi Centre. Les villages différents de l'aire de santé de Mulunguzi sont en train de notifier des cas. Quand on commence à notifier 2, 3, 4 cas par jour, là, ça commence à être inquiétant. Mais de manière générale, la zone de santé de Moba vit avec cette maladie. Même l'axe plateau n'est pas épargné. Parce que nous sommes en mouvement. Il y a des gens qui quittent Mulunguzi, qui passent par Mutambala, qui se retrouvent à Mulonde. Vous connaissez vous-même la transmission de cette maladie. Elle est très rapide. Donc, nous allons demander aux gens de respecter les gestes barrières. Donc, se laver les mains avec du savon, ne pas jeter les matières fécales dans les cours d'eau. Si vous avez été en contact avec quelqu'un qui est soupçonné, il faut vite aller vous présenter au centre pour une désinfection. Et quand on a un cas suspect, vite aller au centre, annoncer pour qu'on puisse déjà riposter, aller désinfecter. C'était le lieu là où a vécu la personne malade.
Kasaï Central, le Proved exige 150 000 francs congolais au chef d'établissement scolaire pour la production d'un sceau unique pour les écoles à Kananga. Du coup, la société civile du peuple s'inquiète et s'insurge contre cette pratique. Pour son coordonnateur provincial, c'est simplement un rançonnement qui n'encourage pas la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État. Emmanuel Isa Kabukapu s'étonne de constater qu'un sceau qui peut se fabriquer jusqu'à 20 dollars maximum va coûter le triple pour les écoles. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Vous allez vous étonner. Comment voulez-vous qu'on demande à chaque chef d'établissement de payer un petit sceau qui est fabriqué à 12 000 francs? Un sceau qui est fabriqué à 20 dollars, si c'est cher. Et c'est donc le luxe de demander 150 000 francs par chef d'établissement pour un sceau qui est fabriqué à Kananga. Donc nous disons que c'est du vol. Nous demandons à son excellence, monsieur le ministre de l'Éducation, d'instruire rapidement son prophète. Je viens maintenant demander aux chefs d'établissement qui n'ont pas encore donné jusqu'à aujourd'hui de dire au prophète que le président de la société civile du peuple a dit que ça s'appelle tout simplement voler, torturer, marcher sur les dos de nos pauvres parents. Et Kinshasa envoie le fonctionnement là qui n'arrive presque pas. Il y a même certaines écoles qui n'en touchent pas. Mais lorsque vous voulez lancer qu'on envoie, qu'on puisse vous retirer pour vous, 150, c'est l'ensemble. D'abord, c'est au-delà de 50% de ce que les chefs d'établissement touchent comme frais de fonctionnement.
Pour le Proved, ce montant a été proposé par le fournisseur qui fabrique ce sceau unique à crédit. Si les écoles veulent renégocier, cela sera proposé aux fabricants, indique-t-il. La ville de Lubumbashi a un nouveau maire. Il s'agit de Patrick Kafuimbi. Il remplace à ce poste Martin Kazembe et retrouve un milieu qu'il connaît pour avoir travaillé dans le cabinet de l'ancien maire, aujourd'hui vice-gouverneur du Haut-Katanga. Patrick Kafuimbi est le président de la jeunesse de l'UDPS pour le compte de la fédération de Lubumbashi 3. Bien avant sa nomination, l'intérim de la ville était assuré par Joyce Tunda, maire adjointe, elle aussi membre du même parti politique. Jean Gandouf nous présente les attentes des Louchois vis-à-vis de la nouvelle autorité urbaine.
Le nouveau maire intérimaire a été nommé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemin Tchabani. Patrick Kafouimbi devrait faire face à beaucoup de défis. C'est notamment l'insalubrité. À ce sujet, la ville de Lubumbashi perd de plus en plus de son éclat. Les activités menées sur le terrain par l'actuel maire s'essoufflent. Les conséquences d'états d'immondices sont visibles à plusieurs endroits au centre-ville. Pour de nombreux louchois, la nouvelle autorité urbaine devrait faire de cet aspect des choses son cheval de bataille, surtout en cette période pluvieuse où les choléras a déjà touché toutes les communes de Lubumbashi et endeuillé de nombreuses familles. Le nouveau maire devrait aussi consolider la lutte menée par la maire adjointe contre les embouteillages, avec notamment l'interdiction faite aux taxis-motos d'accéder au centre-ville. Un autre dossier, c'est celui de l'insécurité. Le cas des vols, des viols et des meurtres sont signalés dans plusieurs quartiers, privant ainsi un sommeil apaisé à de nombreuses familles de la capitale du Cuivre. Une autre opinion souhaiterait que le nouveau maire et son adjointe travaillent à l'unisson pour l'intérêt de la ville, en mettant de côté des petites dissensions pour redorer l'image ternie de la ville. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale. L'Union européenne annonce un plan d'investissement de 4,7 milliards d'euros en Afrique du Sud visant à soutenir la transition énergétique verte et la production des vaccins. Ce programme s'inscrit dans le cadre d'un sommet bilatéral historique entre l'Union européenne et le pays africain. Cette annonce intervient alors que les tensions commerciales avec l'administration Trump s'intensifient.
L'invité.
Et puis cette dernière livraison de notre série sur la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU et le dialogue direct M23 gouvernement congolais sous la médiation de l'Angola. Quelle chance accorder à toutes ces démarches diplomatiques pour le rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs? Nous recevons le professeur Jeff Mudimbi, docteur en sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi. Il est avec Jean Gandou.
Professeur Geoff Modibi, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jean Gandou.
La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a non seulement condamné l'avancée du M23 soutenue par le Rwanda, mais elle a aussi condamné le soutien par la RDC de FDLR. Et par la suite, elle a recommandé aux deux parties de dialoguer pour une issue pacifique à cette crise. Pensez-vous réellement que ces recommandations soient efficaces pour une paix durable, notamment dans la région des Grands Lacs?
Je pense que ces résolutions-là peuvent connaître un problème sérieux d'efficacité parce que il n'y a pas eu des moyens, des contraintes pour amener les différentes parties à s'engager réellement. Et comme vous le savez, le droit international présente une certaine faiblesse, c'est que c'est un droit qui ne compte que sur la bonne volonté des parties. Alors, cette bonne volonté-là n'existant pas de deux côtés, il est vraiment difficile ici que de telles recommandations puissent aboutir à des résultats escomptés.
C'est vrai que cette résolution n'a pas de pouvoir coercitif, mais nous voyons qu'il y a certaines institutions, certaines structures qui condamnent quand même le Rwanda. Ne pensez-vous pas que cela puisse pousser le pays incriminé à s'allier sur ce qui est attendu de lui?
Il est vrai que ces différentes condamnations-là constituent ou nous pouvons les aligner sous l'angle de l'opinion publique. Et comme vous le savez, l'opinion publique agit bien entendu, mais quand nous regardons la nature des dirigeants face à l'opinion publique, pour le cas du Rwanda, nous avons affaire à un gouvernant dominant l'opinion. C'est-à-dire que l'opinion, elle est là, elle exerce une certaine pression, mais le dirigeant fait aussi un effort pour dominer cette opinion et créer de toutes pièces une autre opinion qui lui est favorable.
Et nous savons également que plusieurs résolutions ont déjà été adoptées ou votées au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies sous la RDC, mais sans vraiment que la donne ne puisse changer sur le terrain. Que préconisez-vous pour que cette résolution, la dernière donc, soit efficacement appliquée et qu'elle apporte une solution définitive à la crise qui prévaut dans la région des Grands Lacs, notamment dans l'est du pays?
Je pense que la résolution devrait être accompagnée de moyens de contrainte. Et en l'absence de la bonne foi des parties, je pense qu'il n'y a que des moyens contraignants qui peuvent amener les gens ou les parties à se plier à la résolution qui a été adoptée.
Moyens contraignants, vous pensez à quoi?
Bon, c'est pratiquement les sanctions, notamment, qui sont des moyens auxquels la communauté internationale fait souvent recours.
Après les refus catégoriques du gouvernement de Kinshasa de négocier avec les M23, donc Kinshasa vient enfin d'accepter qu'il y ait un dialogue direct avec ce groupe rebelle sous la médiation de l'Angola. Pouvons-nous espérer enfin voir la fin des hostilités quand on sait que tous les leaders du M23 sont condamnés et d'autres propices sous le mandat d'arrêt?
D'abord, quand on s'engage dans une discussion ou encore dans une négociation, on ne peut pas y aller tête inclinée. C'est que la RDC y va avec un point de vue qui constitue pratiquement ici sa force. Il en est de même aussi du M23. Alors, pour la RDC, le fait déjà qu'il y ait des résolutions condamnant le Rwanda et le M23 constitue une force pour le pays. Mais pour le M23, les portions des territoires conquis dans l'est du pays constituent aussi une force pour ce mouvement-là. Alors, chacun y va en position de force.
Et donc, il faudra qu'il y ait des concessions.
À coup sûr, il faudrait qu'il y ait des concessions pour qu'on arrive à une solution mutuellement acceptable. Même quand aujourd'hui, la RDC accepte de négocier avec le mouvement M23, je ne pense pas que ce soit de bon gré. Donc, en faisant une analyse minutieuse, on peut s'imaginer qu'on veut imposer à la RDC ce qu'il convient d'appeler la paix de puissance. C'est-à-dire, entre deux belligérants, s'ils n'arrivent pas à s'accommoder, alors il y a une puissance étrangère qui s'impose, qui donne un coup à l'un comme aussi à l'autre, les obligeant ainsi de faire quoi? De s'accommoder, de trouver une solution mutuellement acceptable.
Enfin, que pensez-vous de la démarche des églises catholiques et protestantes, mais aussi la position de l'opposition politique congolaise?
C'est pratiquement ici deux démarches diamétralement opposées, parce que pour les églises, il faudrait que l'on arrive à la négociation, mais ce point de vue-là n'est pas partagé par l'opposition. L'opposition en RDC, d'abord, elle est plurielle. Il y en a qui demandent carrément que l'on refasse les élections ou que l'on ne puisse pas négocier et que l'on attende directement en 2028. On ne voudrait pas que le président de la République puisse se présenter parce qu'il aura ainsi consommé ses deux mandats.
Jeff Modibé, je vous remercie.
Voilà, notre invité répondait aux questions de Jean Gandou. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.